États-Unis, Amérique latine, anatomie d'un impérialisme.
À l'heure où Donald Trump fait arrêter le président vénézuélien Nicolas Maduro, lorgne sur son pétrole et menace la Colombie ou Cuba, retour sur la longue histoire de l'impérialisme états-unien sur son continent. Coup d'État, sanctions, ingérence, comment Washington a façonné l'Amérique latine et comment les pays latino-américains ont-ils résisté ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Olivier Compagnon.
Épisode 6, 2026, l'Empire contre-attaque.
Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous resterons jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Nous allons demander à nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus grandes au monde, d'intervenir, de dépenser des milliards de dollars, de réparer les infrastructures pétrolières gravement endommagées et de commencer à faire gagner de l'argent au pays. Donald Trump, conférence à Mar-a-Lago, janvier 2026. Dernier épisode avec Olivier Compagnon. Là, on est au cœur de notre temps présent. L'Empire contre-attaque, est-ce que ce titre vous semble juste ?
Alors oui, dans une certaine mesure, il est juste parce qu'il y a un rejeu d'un certain nombre d'éléments qu'on a pu observer pendant la guerre froide dans cette intervention états-unienne à Caracas dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026.
Pendant la guerre froide ou depuis même le début de notre conversation, à savoir depuis la fin du 19e siècle ?
Alors c'est une intervention...
C'est quoi la référence historique qui va bien là ?
Alors pour moi, la référence historique qui va bien, c'est 1989, Panama, lorsque les États-Unis vont enlever le général Noriega, qui était dans une certaine mesure leur homme de paille,
hein, oui.
Puisque Panama à l'époque était encore très largement sous, enfin, en tout cas, le canal était encore sous contrôle états-unien, mais à un moment donné, Noriega était tellement trempé dans des affaires de trafic de drogue, sorte de piston entre la Colombie et le territoire états-unien, que c'était plus possible de le laisser en place, et donc on a envoyé une opération spéciale et on a mis quand même une quinzaine de jours pour le déloger et le juger et l'emprisonner. Donc effectivement, la référence historique, c'est ça, même si en fait, ce sont toutes les interventions militaires directes des États-Unis sur les territoires latino-américains, et pour se limiter à l'après 1945, c'est le Guatemala en 54 dont on a déjà parlé, ouais. C'est la République dominicaine en 65 ou c'est l'île de Grenade en 83. Et puis donc c'est la bonne référence Panama parce que c'est aussi l'argument du narcotrafic.
Oui, alors parlons-en parce que il est toujours question de la sécurité des États-Unis. La drogue menace évidemment les États-Unis comme beaucoup de pays du monde entier et en effet, l'Amérique latine est un grand pays producteur et de transit de la drogue qui arrive aux États-Unis. C'est peut-être fallacieux, mais c'est une réalité du terrain. C'est peut-être fallacieux dans la cause réelle de l'intervention militaire, mais c'est une réalité.
Alors, oui et non. D'abord, effectivement, la production de coca est essentiellement concentrée dans les Andes, et en particulier en Colombie. Ensuite, les plateformes de distribution de la cocaïne sont multiples, et aujourd'hui, si on voulait taper une plateforme importante, il fallait plutôt taper l'Équateur que le Venezuela. Ça, c'est la première chose importante. Deuxièmement, effectivement, beaucoup d'États-Uniens meurent de la drogue, ou en tout cas sont touchés par le fléau de la drogue, mais enfin, on sait que aujourd'hui, ce qui tue aux États-Unis, c'est le fentanyl.
Oui.
Et le fentanyl, c'est une autre géopolitique. Ce sont des molécules qui sont fabriquées en Chine et transformées au Mexique. Tout ça pour vous dire que l'argument du narcotrafic, ou plutôt du narcoterrorisme, pour reprendre la terminologie utilisée par Washington, est évidemment un argument d'apparence, un argument fallacieux, comme d'ailleurs l'argument qu'on a un peu entendu, de voilà, on intervient en Venezuela pour assurer la démocratisation.
Oui, ça on le dit peu.
On le dit peu, on pourrait le dire, parce qu'il faut quand même rappeler, quand on analyse ce qui s'est passé début janvier 2026, que le régime de Maduro est devenu un régime totalement autoritaire.
Oui.
Nous parlions dans le précédent épisode de la relation du chavisme à la démocratie, qui n'est pas une relation parfaite, mais c'était le produit de la souveraineté populaire. Depuis 2015, il y a eu un virage radicalement autoritaire, radicalement répressif, violemment répressif, du régime vénézuélien, à la suite de la perte des élections législatives de décembre 2015. Et au fond, on aurait pu imaginer aussi que cet argument de la démocratisation soit utilisé. Mais même pas. Puisque Trump, dans sa conférence du 3 janvier, dit de manière totalement naturelle, non, on y va pour le pétrole, parce que derrière, effectivement, il y a un enjeu qui est très clair, ce sont les premières réserves pétrolières mondiales qui sont ciblées par cette opération.
Et qui sont assez peu exploitées,
En raison notamment du blocus.
Alors, oui. En l'état actuel des choses, elles sont peu exploitées. En fait, bon, le Venezuela est rentré dans l'ère pétrolière dans les années 1910, s'est imposé très rapidement comme l'un des premiers producteurs et exportateurs mondiaux dès la fin des années 1930. Hein, il y a une centralité vénézuélienne dans l'histoire pétrolière du XXe siècle.
C'est oui, l'OPEP est né au Venezuela.
C'est l'un des pays fondateurs de l'OPEP, ouais. Évidemment. Et évidemment, la prospérité du pays, hein, donc prospérité non répartie auprès de toute la population, mais la prospérité générale du pays, c'est le pétrole et uniquement le pétrole. Bon, simplement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, d'une part, il y a un sous-investissement chronique, notamment hein, depuis les années de Chavez, mais depuis le début des années 2010, surtout, dans des infrastructures qui nécessitent au contraire des investissements technologiques permanents. Donc, il y a eu une diminution considérable de la production. Et puis, d'autre part, les réserves vénézuéliennes qui font briller les yeux du monde entier, sont des réserves un peu compliquées à exploiter parce que dans la ceinture de l'Orénoque, voilà, on le sait, c'est ce qu'on appelle un pétrole lourd ou un pétrole bitumineux qu'il faut extraire très profondément et avec effectivement des technologies très, très coûteuses. Donc effectivement, hein, à la fois c'est un Eldorado pétrolier, d'ailleurs on retrouve toute une série de vieux imaginaires sur l'Amérique latine, et dans le même temps cet Eldorado pétrolier, pour le mettre très concrètement en valeur, il faudra un certain nombre d'années.
On est chez Voltaire, quasiment, l'Eldorado.
Exactement.
Mais est-ce qu'il y a quand même aussi une dimension symbolique? Parce qu'on a raconté le Venezuela, qui était le pays qui a donné quasiment le go au corollaire Roosevelt en 1904. C'est le pays de Chavez. D'ailleurs, les États-Unis avaient tenté indirectement de le renverser déjà une première fois en 2002. Renverser aujourd'hui Maduro, c'est aussi achever une histoire.
Oui, oui, absolument. Ça a un tout autre impact que si cette opération avait eu lieu aujourd'hui en Équateur ou je ne sais où, parce que c'est le produit d'une histoire extrêmement tendue entre Caracas et Washington depuis 25 ans, en fait, depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir. Il y a un autre élément aussi qui rend la question très, très aiguë, hein, c'est que suite au virage autoritaire du chavisme, enfin donc du chavisme sans Chavez, de Maduro, depuis la fin de l'année 2015, le début 2016, on sait que 8 millions de Vénézuéliens, soit presque un quart de la population totale, a fui le pays. C'est absolument incroyable. Enfin, c'est comme si 16 ou 17 millions de Français étaient partis à l'étranger au cours des 10 dernières années. C'est absolument incroyable. Et donc, pourquoi? Parce qu'à la fois pour fuir des conditions de vie quotidienne qui ne sont plus possibles, mais en même temps pour fuir un régime autoritaire. Donc, c'est aussi tout ça, à un moment donné, qui s'agglutine dans cette opération extrêmement spectaculaire, qu'il est difficile de commenter à chaud, hein, puisque à la fois, on exfiltre, on kidnappe un authentique dictateur, et donc il y a énormément de gens qui s'en réjouissent dans le monde, et on peut le comprendre, on peut comprendre les migrants vénézuéliens installés au Chili dans des formes de précarité incroyables qui s'en réjouissent, et dans le même temps, effectivement, on assiste, il faut là encore mettre les mots de manière très claire sur ce qui s'est passé, à un viol des normes les plus élémentaires du droit international, notamment de l'article 2, alinéa 4 de la Charte des Nations Unies, mais aussi de la Charte de l'Organisation des États américains, donc organisation qui avait été fondée en 1948, qui avait été en fait une sorte d'outil de légitimation des interventions états-uniennes jusqu'à la fin de la guerre froide, mais dont la charte a été profondément réformée à la fin des années 80, mais surtout au début des années 90, et qui aujourd'hui est un outil de droit international au même titre que la Charte des Nations Unies. Et effectivement, quand on regarde ce qui s'est passé à Caracas à l'aune de ces documents, évidemment, c'est une opération impériale qui semble rejouer un temps révolu.
Alors précisément, est-ce que cette dimension impériale, elle nous rappelle qu'on a vécu dans l'illusion d'un monde post-libéral? Vous évoquez dans un épisode précédent la fin de l'histoire avec Fukuyama, ces moments-là où on pensait que l'histoire était terminée, qu'on allait vers la démocratisation, c'était un leurre. Est-ce que l'idée que c'était la fin des empires, c'était pas aussi un autre leurre? Et Trump nous rappelle, avec sa vulgarité, avec sa violence, avec ses mots, cette réalité-là.
Alors, on n'a pas forcément attendu Trump pour se souvenir que ce n'était pas la fin des empires, puisqu'on a quand même une agression russe sur l'Ukraine depuis, et puis d'autres agressions ailleurs dans le monde.
Mais dans le monde occidental,
Depuis un moment. Alors, je ne sais pas si nous sommes collectivement leurrés. Il me semble quand même que l'intervention états-unienne de début janvier se joue en quelque sorte à contre-courant. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque les États-Unis intervenaient brutalement au Guatemala en 54 ou brutalement en République dominicaine en 65, personne ne pouvait moufter dans la région, parce que toute façon, tous les pays étaient sous emprise totale, commerciale, financière. Aujourd'hui, les pays voisins, l'Amérique latine, alors n'a pas une voix unique parce que tous les processus d'intégration latino-américaine, alors l'ALBA qu'on a pu évoquer, oui. l'UNASUR et puis d'autres processus...
Le Mercosur,
par exemple, sont quand même plutôt des espaces qui sont en crise. Puis le Mercosur, ce n'est pas un espace de parole politique, fondamentalement. Ouais. Bon, donc il n'y a pas une voix latino-américaine, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus une dépendance économique latino-américaine comme celle que nous connaissions pendant la guerre froide et qui faisait qu'à un moment donné, tous les pays pouvaient regarder passivement ce type de viol de la souveraineté nationale. Et d'ailleurs, on l'a très bien vu dans les réactions qui ont suivi le 3 janvier, puisqu'il y a eu un certain nombre de déclarations communes de pays, le Chili, la Colombie, le Brésil, le Mexique, auxquelles d'ailleurs s'est jointe l'Espagne, pour dénoncer cette agression.
Donc vous me dites que c'est un peu anachronique, ou en tout cas que les États-Unis n'ont plus aujourd'hui les mêmes armes qu'hier. En tout cas, peut-être ont-ils les mêmes armes, mais leurs armes n'ont pas les mêmes effets.
Ils ont les mêmes armes, mais ils exploitent ces armes dans un contexte qui a radicalement changé. Et il me semble que ce que nous disions à la fin du dernier épisode, à savoir que les États-Unis avaient perdu ou partiellement perdu l'Amérique latine dans la séquence, en gros, début des années 90, fin des années 2010, me semble entièrement valable, et que donc c'est une illusion de puissance états-unienne en Amérique latine qui a été donnée début janvier, davantage, selon moi, qu'un authentique retour de l'hégémonie telle qu'elle s'était déployée pendant la guerre froide.
À quelles conditions ce retour pourrait être plus durable et plus réel, à condition qu'il existe ?
Il faudrait éliminer d'abord l'extraordinaire puissance chinoise telle qu'elle s'est développée aujourd'hui en Amérique latine.
C'est un des objectifs d'ailleurs, hein. C'est un des objectifs de l'opération militaire.
L'un des objectifs, c'est de mettre la main sur des ressources pétrolières pour les 3, 4 ou 5 décennies qui viennent, dans un contexte où les États-Unis ont perdu une bataille qui est celle de la transition écologique. Aujourd'hui, quand vous regardez les domaines clés de la transition écologique, alors notamment l'éolien, le photovoltaïque, etc., la Chine a gagné la bataille internationale, est le principal fournisseur. Et au fond, les États-Unis là, jouent une carte, qui est la carte du passé, sans aucun doute, hein, qui est la carte du capitalisme de finitude, pour reprendre l'expression de l'historien Arnaud Aurin. L'objectif est de sécuriser des ressources pétrolières pour quelques décennies, dans un contexte où, effectivement, la Chine a pris le dessus dans des domaines qui sont les plus stratégiques au XXIe siècle.
Donc à vous écouter, ce qui s'est passé début janvier 2026, c'est un formidable retour en arrière et non pas une projection de puissance dans l'avenir.
C'est comme ça que je l'interprète personnellement.
J'ai envie de terminer par une, et souvent je le fais, par une question plus personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'Olivier Compagnon, vous êtes intéressé à ce point à l'Amérique latine ?
Alors, je n'ai aucune histoire personnelle latino-américaine. Nous étions en 1989, j'allais commencer une maîtrise d'histoire, et j'avais deux impératifs. Je voulais travailler sur le XXe siècle, et je ne voulais pas travailler sur la France. J'avais étudié l'allemand, l'anglais, le latin et le grec à l'école.
On et était un peu loin du sujet.
Et à ce moment-là, je suis allé voir une prof, je peux donner son nom, une jeune prof à l'époque, Marie-Pierre Rey, et je lui ai dit, voilà ma situation.
Alors elle, c'est plutôt l'URSS.
Donc je rappelle, 1989, donc on est avant Internet, etc. Et là, elle me dit, si tu veux bosser sur l'Italie, tu écris à Serge Berstein. Si tu veux bosser sur l'Afrique, tu écris à Catherine Kokri-Vidrovitch, etc., etc., etc. Et le soir, j'envoie mes petites lettres, que je vais poster le lendemain, à l'ensemble de ces enseignants. Et la première personne qui m'a répondu, c'est François-Xavier Guerra, qui était titulaire de la chaire Histoire de l'Amérique latine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en me disant, venez donc lundi prochain me voir. Je l'ai rencontré dans son bureau enfumé, puisque il m'a offert une cigarette. Immédiatement, le contact s'est établi, et voilà. Donc, c'est un véritable hasard. Un heureux hasard, et qui a ensuite construit l'ensemble de ma vie.
Et nous, on en a profité. Merci beaucoup.
Merci
de
pour
nous avoir éclairé sur ces relations entre les États-Unis et l'Amérique latine, empreinte de désir d'impérialisme, d'armes qui changent. Et vous nous avez donné des clés de lecture, je crois, très riches sur les événements du début de l'année 2026. Merci beaucoup, Olivier Compagnon, d'avoir été avec moi.
Merci à vous.
États-Unis, Amérique latine, anatomie d'un impérialisme est un podcast original de France Inter.